Comme première lecture, nous lirons Galates 6, de 1 à 10. Mes frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Si quelqu'un pense être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Que chacun examine ses propres œuvres, et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul, et non par rapport à autrui. Car chacun portera son propre fardeau. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. La place à Daniel.
Le deuxième texte se situe dans l'Ancien Testament, Deutéronome 25, les versets 13 à 16. Le titre, c'est « L'honnêteté dans le commerce ». C'est très à la mode d'ailleurs, comme thème. « Vous n'aurez pas dans vos sacs des poids inexacts, certains plus lourds et certains plus légers. Vous n'aurez pas non plus chez vous des mesures falsifiées, certaines plus grandes et d'autres plus petites. Vous ne devez avoir que des poids exacts et des mesures justes. Ainsi, vous vivrez longtemps dans le pays que le Seigneur votre Dieu va vous donner. En effet, le Seigneur votre Dieu a en horreur ceux qui commettent des injustices de ce genre. »
Un voilier sans vent n'avance pas. Il en est de même pour chacun de nous dans la compréhension de la parole de Dieu, raison pour laquelle j'invoque avec vous le Saint-Esprit, pour qu'il nous éclaire et qu'il nous conduise dans la compréhension de la parole, qu'il donne à chacune et à chacun la paix au milieu de nous. Je suis heureux d'être ici ce matin parmi vous et au milieu de l'été, au milieu de notre série de prédications sur les dictons et les proverbes provenant de la Bible. La semaine dernière, c'était Philippe Cornu qui traitait de crier sur les toits. La semaine prochaine, ce sera Denise Félix qui nous parlera de « À chaque jour suffit sa peine ». Et aujourd'hui, il sera question de deux poids, deux mesures. Arrêtons-nous quelques instants sur Deutéronome 25 que Daniel vient de nous lire. Dans une société agraire, où les gros propriétaires achetaient, revendaient directement la nourriture pour la vie quotidienne, la tentation pouvait être grande, peut-être quand il y avait de la pluie comme ces jours, et moins de récoltes, d'avoir deux poids et deux mesures. Un poids pour une mesure sous-dimensionnée pour la vente. On peut penser à un poids d'un kilo, je ne sais pas si vous avez vu ça. Moi, je l'ai vu enfant au Moyen-Orient, on pesait, c'était pas à la Migros avec le poids déjà étiqueté. On avait le marchand qui venait avec sa charrette et il y avait les fruits ou les légumes. Et puis, il posait avec différents poids. Hein. Moi, je me rappelle ma grand-mère qui, du haut de son balcon au quatrième, après avoir descendu le panier, disait « Non, non, pas celui-ci ». Elle pouvait pas voir que l'orange était pas bonne, mais elle disait « Non, non, pas celui-là ». Pour mettre la pression sur le marchand, il y avait tout un jeu. Et le poids, le kilo, en fait, si on le levait dessous, il pouvait être percé au milieu, donc il manquait un bout. Hein. Donc voilà, là, on a le côté vente, et puis des poids et des mesures surévaluées pour acheter ainsi, en payant un kilo, on en prenait 1,1 kg. Donc quand on vendait, on prenait le poids qui pesait un peu moins, comme ça on vendait 900 grammes pour le prix d'un kilo, et quand on achetait, on prenait le poids qui faisait 1,1 kg, et comme ça on prenait. C'était profondément malhonnête. D'où la recommandation de la loi d'avoir des poids et des mesures justes. L'Éternel, votre Dieu, a en horreur ceux qui commettent des injustices de ce genre. De là est née notre expression « avoir deux poids, deux mesures ». Au verset 10 du chapitre 20 des Proverbes, nous lisons « deux sortes de poids, deux sortes d'effats sont l'un et l'autre en abomination à l'Éternel ». Un effat, c'est une mesure de 18 litres environ pour peser le grain, et puis le boisseau dont il était question tout à l'heure, environ 36 litres. Donc, sont l'un et l'autre en abomination à l'Éternel. Une fois encore, est mise en relief l'abomination que représente aux yeux de Dieu l'injustice dans les transactions. C'est-à-dire minimiser pour vendre et maximiser pour acheter. Ici sont incluses toutes les formes de tromperie et de fraude. Pas seulement commercial. Derrière cette thématique de poids, de mesure, il y a toute la question de la justice et de l'injustice dans les relations humaines et donc dans notre relation à Dieu qui est abordée. Il y a la justice de Dieu, la justice des hommes au tribunal, nous l'évoquions avec quelqu'un tout à l'heure, et puis il y a la justice que nous exerçons tous les jours dans notre vie, en formant une sorte de mini-tribunal dans notre tête, dans notre conscience, avant de prendre une décision. Alors, qui est Dieu? Qu'est-ce que la justice? Et comment combattre en ce monde pour la justice? C'est une vaste question. La justice, on peut dire, est un des attributs de Dieu, un des noms duquel on le nomme. Autant dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament, il met son peuple en garde contre la malhonnêteté, en usant en particulier de l'exemple de la balance, qui ne devait pas avoir un poids pour le riche et un poids pour le pauvre. Le thème de la justice, et donc aussi de la justice sociale, est très présent dans l'ensemble de la Bible, ce qui montre son importance pour Dieu. Au travers de sa parole, il parle de justice et désire qu'elle puisse être appliquée dans la vie de ses créatures, des hommes, et particulièrement par ceux qui sont ses enfants, nous tous, les chrétiens. La justice demandée pour les hommes vient de la justice divine. Les droits de l'homme, d'ailleurs, connus universellement, sont inspirés par le Décalogue, les 10 commandements. Dans Lévitique 19, au verset 15, nous lisons « Vous ne commettrez pas de malhonnêteté en fraudant sur les mesures de longueur, de poids ou de capacité. » Vous vous servirez de balance juste, de poids juste, de mesure de capacité juste. Je suis l'Éternel votre Dieu qui vous ai fait sortir d'Égypte. Pourquoi ce dernier verset? Peut-être pour dire, ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. Je vous ai fait sortir d'Égypte, je pourrais m'occuper de vous. Dans Proverbe 11, au premier verset, nous lisons « La balance fausse est en horreur à l'Éternel, mais le poids juste lui est agréable. » Rien de plus offensant pour Dieu que la fraude. Est mentionnée ici la fausse balance comme représentation de toutes les pratiques injustes et frauduleuses dans le traitement des autres. C'est une abomination envers Dieu. Les hommes, eux, ont l'habitude, et peut-être plus aujourd'hui encore qu'avant, de tenir comme étant peu de choses, de telles fraudes, et pensent que tout va bien quand on essaye de payer moins d'impôts ou de gagner de l'argent. La tendance est à la banalisation de l'injustice. Il y a un pas vu, pas pris qui commence à se généraliser. Il n'y a qu'à voir dans le domaine du marketing, aujourd'hui, entre information sur un produit et mensonge, il n'y a qu'un pas qui est souvent franchi. Dans le packaging, c'est-à-dire la façon d'emballer, on change l'emballage et on diminue la quantité en gardant le même prix, etc. Chacun d'entre nous est conscient de plusieurs exemples qu'il a vécu personnellement. C'est dans la nature, c'est pas vraiment nouveau. Par contre, l'ingéniosité, la créativité fait qu'on a de plus en plus de choses de cet ordre-là et surtout qu'on commence à s'habituer. C'est ça qui va pas. La balance juste est agréable à Dieu. Rien n'est plus agréable à Dieu que les agissements honnêtes et justes. Et rien n'est plus nécessaire que cela pour faire en sorte que nous et nos églises soient agréables à Dieu et crédibles. Une publicité de l'église luthérienne américaine dans un magazine montrait un cercueil porté par 6 hommes et disait cela. Faudra-t-il vraiment attendre ce moment pour vous revoir dans l'église? Elle est bonne, j'ai bien ri aussi, hein, j'ai fait du marketing, j'avais retenu cet exemple. Mais je me suis posé la question. Est-ce juste pour des chrétiens de communiquer sur la peur de la mort en l'exploitant? N'est-ce pas aussi de la manipulation? Ce que Dieu veut, c'est la pratique de la justice pour tous et par tous. Le mal et le bien, le juste et l'injuste existent en chacun de nous. Ils coexistent dans nos relations, dans notre Église, dans notre société. Nous ne pouvons l'ignorer et ne rien faire. En conséquence, avoir des égards pour les puissants, à qui on pardonnerait plus, les méchants ou pour ses propres affinités, n'est pas selon la justice divine, qui veut que tous les jugements soient impartiaux. De même, en parole, l'honnêteté est la base du comportement du chrétien, mais aussi de l'homme qui veut vivre en paix et en bonne intelligence avec ses semblables. Car l'attitude égoïste et malhonnête peut s'appliquer à bien des situations. On peut être tenté de traiter telle personne avec dureté et telle autre avec indulgence. Charité bien ordonnée commence donc par soi-même. Pratiquons la justice et n'ayons pas deux poids, deux mesures. Le prophète Amos et les autres prophètes nous y exhortent. Au chapitre 5, Amos dit « Haïssez donc le mal, aimez le bien » et rétablissez le droit en justice. Et il dit un peu plus loin dans le même passage, cherchez l'Éternel et vous vivrez. La religion authentique et pure aux yeux de Dieu, le Père, consiste à aider les orphelins et les veuves dans leur détresse et à ne pas se laisser corrompre par ce monde. Dans le Nouveau Testament, Jacques, au chapitre 1, nous dit, mes frères, à quoi servirait-il à un homme de dire qu'il a la foi s'il ne le démontre pas par ses actes? Une telle foi peut-elle le sauver? Supposez qu'un frère ou une sœur manque de vêtements et n'aille pas tous les jours assez à manger. Et voilà que l'un de vous leur dit « Au revoir, mes amis, portez-vous bien, restez au chaud et bon appétit », sans leur donner de quoi pourvoir aux besoins de leur corps. À quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle reste seule, sans se traduire en acte, elle est morte, Jacques 2. Jésus, quant à lui, a clairement dit qu'il n'était pas venu pour abolir ce qui est écrit dans la loi ou les prophètes, mais pour accomplir. Alors citons quelques-unes de ses paroles. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui sont opprimés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Cherchez premièrement, le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes choses vous seront données par-dessus. Si Jésus souligne la justice à ce point, c'est parce qu'il est lui-même cette justice. Le Christ lui-même a souffert la mort pour les péchés, une fois pour toutes. Lui, le juste, il est mort pour des injustes, afin de nous conduire à Dieu. Et c'est la grâce, pure grâce, pas parce qu'on est juste, pas parce qu'on est des bons chrétiens ou qu'on fait juste, mais par pure grâce, nous sommes sauvés. Et la justice, c'est d'avoir conscience d'être sous la grâce, et la pratique de la justice, c'est de chercher à mettre les autres, le prochain, au bénéfice de la même grâce. Et nous, dans toutes les affaires à traiter ou dans les responsabilités qui nous incombent, quel poids et quelle mesure allons-nous utiliser? Est-ce que je suis juste? Est-ce que je fais régner le droit pour la part qui dépend de moi? June nous a lu tout à l'heure, Galates 6, « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. » Il y a donc une interaction entre nos actions et leurs conséquences éternelles. Dans Matthieu 7, nous lisons « Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. » Pesez, pesez, trouvez léger. Alors que ferons-nous? Ouvre ta bouche pour défendre ceux qui ne peuvent parler, pour défendre les droits de tous ceux qui sont délaissés. Oui, parle pour prononcer de justes verdicts. Défends les droits des malheureux et des pauvres, et détache les liens de la méchanceté. Délie les courroies de toute servitude. Mets en liberté tous ceux que l'on opprime, et brise toute espèce de joug. Partage ton pain avec ceux qui ont faim, et offre l'hospitalité aux pauvres, sans abri. Donne des habits à celui qu'on voit nu. Ne te détourne pas de ton prochain. C'est finalement le lot de chacun de toujours se poser la question, est-ce que je fais le bien? Est-ce que j'élève correctement mes enfants? Est-ce que je fais du bien ou du mal à mon conjoint, à mes amis? Se poser ce genre de questions est essentiel pour vivre en conscience, à moins de se résoudre à vivre comme une brute au gré de passions et des désirs du moment. Dès qu'on veut donner un peu de profondeur, de valeur, de sens à sa vie, il faut se poser ce genre de questions. Et dans les termes simples de bien et de mal, qu'est-ce qui est bien? Qu'est-ce qui est mal? Aiguiser notre discernement, que ce soit en acte, en parole ou en pensée. Parfois, il est possible de se tromper, de croire qu'on est bon à nos propres yeux parce que finalement, on n'a rien fait de grave ni de méchant. Mais heureusement, la prière et la lecture de la Bible nous aident à y voir clair. Examinons toutes choses et retenons ce qui est bon. Ne pas juger rapidement aux seules apparences, mais examiner, bien examiner, en ayant faim et soif de ce qui est juste. Examiner et retenir ce qui est bon. Soyons certains de décrire les choses honnêtement et pas de façon biaisée. De la même manière, soyons justes ou essayons de l'être dans notre manière de traiter les personnes. Être célèbre ou dans la paroisse depuis X années ou riche n'est pas un statut biblique. Tous sont égaux sous le regard de Dieu. L'enjeu de la justice que prêchent les prophètes, c'est que personne ne soit lésé de ce qui lui est simplement dû. La subsistance, pour commencer, mais aussi tout ce qui permet un authentique accomplissement humain. Comment ne pas mentionner ici le regard? Que nous nous devons les uns aux autres, un regard dans lequel nous nous reconnaissons frères et sœurs. La vérité de notre vie, c'est que trop souvent, nous perdons de vue les exigences de la justice et les médias nous aident. Nous oublions de rendre à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu et aux frères ce qui est aux frères. Nous avons une mesure pour nous-mêmes et une autre pour les autres. Être juste, et je conclus avec cela, c'est donc se tenir au plus près du cœur de Dieu, dans l'amour du prochain. Chaque jour est fait de multiples rencontres, des plus banales aux plus importantes, des plus agréables aux plus difficiles. Et à chaque fois, ce qui est en cause, c'est la reconnaissance du prochain et de ses droits. C'est la mutuelle reconnaissance que nous nous devons comme frères et sœurs, tous nés du même Dieu, tous créés à son image et ressemblance. Je termine par la lecture de ce verset de Michée que nous connaissons tous. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, ce que le Seigneur exige de toi. Rien d'autre que respecter le droit, aimer la fidélité et t'appliquer à marcher avec ton Dieu. Amen.